Alors, je tiens tout d'abord à remercier Maxime Servulle pour m'avoir proposé de venir prendre part à cette conversation, même si je ne suis pas connue, et pour de bonnes raisons, pour être une marxiste de quelque sorte que ce soit. Ça n'est pas mon entrée principale. Je parle plutôt marxien que je ne discute les théories marxistes, on va dire ça comme ça. Donc c'est plus une sorte de langage qui court tout au long de ce que je peux être amenée à décrire et à proposer en termes de réflexion. Et puis par ailleurs aussi, les cultural studies, même si elles sont un de mes centres d'intérêt importants, ne sont pas un territoire que j'explore d'un point de vue théorique, mais plutôt que je pratique à travers toute une série d'objets et toute une série de rencontres que j'essaye de ménager. Donc c'est précisément à ces rencontres-là que je vais essayer de m'intéresser et de vous intéresser, en essayant de voir en quoi est-ce que les cultural studies et les mobilisations féministes en France ont quelque chose à se dire dès lors qu'elles en passent par ce tiers absent, qui est celui de l'épreuve des racisés, ou des populations qui sont soumises à des structures de racialisation, pour le dire comme ça. Alors, je procéderai en trois temps. Je vais d'abord faire un retour sur un passé qui ne passe pas. C'est une thématique assez récurrente dans l'imaginaire et dans les mythologies françaises. J'en choisirai une qui est tout à fait anecdotique par bien des aspects, mais qui me parle depuis longtemps et que j'essaie de débrouiller d'une certaine manière, et dont j'essaie de faire le compte-rendu détaillé. Alors, ça ne s'arrêtera pas aujourd'hui, mais c'est, à mon avis, un point de départ intéressant pour comprendre en quoi est-ce que les modalités et les formes de coalition qui, aujourd'hui, pourraient se jouer aussi bien au sein de l'université que dans le monde politique, en termes à la fois féministes et en termes de lutte de classe, participent d'un horizon qui est encore à construire et non pas de quelque chose qui serait une réalité avérée et éprouvée, expérimentée dans le contexte français contemporain, y compris dans les derniers mois de ce que nous sommes en train de vivre, donc j'y reviendrai. Alors, introduction, donc, tout commence par un malentendu. Un malentendu qui ne se dissipera pas de sitôt, car pour tout dire, dans les vastes espaces de la routine universitaire, il persiste et continue de produire ses effets d'invisibilisation et d'étendre son nombre porté sur l'espace encore à viabiliser de mobilisation subalternative, soit pas blanche. Alors je reviendrai sur ce terme de pas blanche, puisqu'il y a un terme qui commence à prendre un certain auditoire et à être audible, qui est celui de non-blanche. Donc j'essaierai d'établir une distinction entre ces deux dimensions. Ce malentendu a un nom propre, que Beverly Skeggs d'ailleurs a évoqué, c'est celui de Bourdieu. Il y a beaucoup à dire sur la façon dont son impulsion, celle de Bourdieu, de l'étude de la culture, savante, dominante, ordinaire, moyenne, distinctive, élitiste, a occulté la montée en puissance radicale perturbatrice d'une culture dont les hybridations et les embardées ne faisaient que commencer. En faisant traduire « La culture du pauvre » de Richard Hogarth, ou plus exactement en ne faisant traduire que « La culture du pauvre », Pierre Bourdieu balise le champ qui devra être labouré et désigne par défaut, par une absence appelée à durer, ce qui ne pourra pas être exploré au-delà des limites autorisées. Voici comment quelqu'un qui a pris langue avec lui et avec qui ça s'est plutôt mal passé, voici comment donc De Certeau déplie les causes d'un délit et éclaire ses conséquences dont nous ne sommes pas sortis. Par analogie, je tenterai de montrer que l'impensé de la race, des femmes immigrées que je propose de renommer femmes de couleur, en prenant au sérieux l'autonomination qu'elles pratiquent, persiste à hanter nos vies et nos pratiques analytiques et militantes. Alors ceci, je vais donc m'appuyer sur un extrait de mon habilitation qui me semble résonner avec ce que cette session propose de mettre en discussion et en perspective. Et j'apprécie tout particulièrement la manière dont Beverly Skeggs a parlé à la première personne en rappelant que c'est d'abord tout cela une affaire personnelle. Donc De Certeau met en perspective la stratégie, donc là je reprends cet extrait qui en fait fait partie d'un chapitre introductif de mon habilitation qui s'appelle « Une sociologie en douce ». qui montre bien qu'il y a bien des manières de faire de la sociologie. Donc la mienne était plutôt du genre clandestine. Alors, De Certeau met en perspective la stratégie, entre guillemets, du chercheur et celle des pratiquants qu'il observe sur différents terrains ethnographiques, montrant qu'en fait, Bourdieu emprunte aux célibataires béarnais comme aux femmes et hommes kabyles leur tactique, entre guillemets, pour remettre sur ses pieds l'ordre du monde, matériel et conceptuel, qu'il convient de préserver pour le rendre viable, praticable, dominant, donc. Cela laisserait penser que Bourdieu a trouvé dans ses observations au plus près l'outil qu'il retournera contre elle pour en effacer la puissance agissante et pensante désormais réservée uniquement aux chercheurs, seuls savants de la réalité. Il pose ainsi la question du degré de dissimulation nécessaire en cette entreprise à laquelle il propose une réponse résumée dans ses grandes lignes ci-dessous. C'est Bourdieu qui est cité avant que De Certeau ne reprenne la main. Donc là, je cite Bourdieu tel qu'il est cité par De Certeau. C'est parce que les sujets ne savent pas, à proprement parler, ce qu'ils font, que ce qu'ils font a plus de sens qu'ils ne le savent. Ça, c'est une citation très classique, presque un pensif de Bourdieu. Mais à l'époque où De Certeau met ça en discussion, on est encore au début de la montée en puissance de la gloire bourdieusienne, pour le dire comme ça. Alors, que nous dit De Certeau sur cette citation qui sera évidemment par la suite éminemment commentée. Docte ignorance, nous dit De Certeau, donc habileté qui ne se connaît pas. L'inconscience du groupe étudié était le prix à payer, le prix qu'il devait payer pour sa cohérence. Une société ne pouvait être un système qu'à son insu. D'où le corollaire, il fallait un ethnologue pour savoir ce qu'elle était sans le savoir. Aujourd'hui, l'ethnologue n'oserait plus le dire, sinon le penser, entre parenthèses. Comment se fait-il que Bourdieu s'y compromette au titre de la sociologie ? Ces textes de Bourdieu fascinent par leurs analyses et agressent par leurs théories. En les lisant, je me sens captif d'une passion qu'ils irritent en l'excitant. Chaque phrase mériterait de très longs commentaires que je ne ferai pas aujourd'hui. Ensuite, je me déplacerai du côté des questions de féminisme et de race. Ils sont faits de contrastes. Examinant scrupuleusement les pratiques et leur logique, d'une façon qui n'a sans doute pas d'équivalent depuis Mauss, il les ramène finalement à une réalité mystique, l'habitus, destiné à les ranger sous la loi de la reproduction. Je vois qu'il y a quelques croisements avec des choses qui ont pu être dites. Malheureusement, we lack the language in order to bring together what you said and what I'm saying now. I'm sorry about that. Les descriptions subtiles des tactiques béarnaises ou kabyles débouchent soudain sur des vérités assenées, comme s'il fallait à une complexité si lucidement poursuivie le contrepoint brutal d'une raison dogmatique. Contraste aussi du style, retors et labyrinthique dans ses chasses et massivement répétitif dans ses affirmations. Étrange combinaison d'un « je sais bien », entre guillemets, cette prolifération rusée et transgressive, et d'un « mais quand même », il doit y avoir un sens totalisant. Pour sortir de cette agressante séduction, je suppose à mon tour que dans ce contraste doit se jouer quelque chose d'essentiel pour l'analyse des tactiques. La couverture que la théorie, entre guillemets, de Bourdieu jette sur elle, comme pour en éteindre les feux, en certifiant leur docilité, doit nous apprendre quelque chose de leur rapport à toute théorie. Ces tactiques, par leurs critères et leurs procédures, utiliseraient de manière si autonome l'organisation institutionnelle et symbolique qu'à les prendre au sérieux, la représentation scientifique de la société s'y perdrait dans tous les sens du terme. Ces postulats, ces ambitions n'y résisteraient pas. Je continue donc, toujours De Certeau. Je vous prie de m'excuser pour cette longue citation, mais ça va nous permettre d'en finir avec les grands hommes. Mais cette rentrée en hâte, dans la rationalité académique, n'est-elle pas l'indice qu'il connaît, en italique, lui, le danger, peut-être mortel, que font courir au savoir scientifique ces pratiques trop intelligentes. Combinaison, lointainement pascalienne, entre l'effritement de la raison et une foi dogmatique. Il en sait long sur le savoir scientifique et sur le pouvoir qui le fonde, tout comme sur ses tactiques dont il rejoue les ruses avec tant de virtuosité dans ses textes. Il enfermera donc ses ruses derrière le grillage de l'inconscience et il le déniera par le fétiche de l'habitus, ce qui manque à la raison pour qu'elle soit autre chose que la raison du plus fort. Il affirmera avec l'habitus le contraire de ce qu'il sait. Tactique populaire traditionnelle, et cette protection, hommage rendu à l'autorité de la raison, lui vaudra la possibilité scientifique d'observer ses tactiques en des lieux soigneusement circonscrits. Si cela était vrai, mais qui pourrait le dire ? Il nous en apprendrait autant par son dogmatisme que par ses études. Le discours qui cache ce qu'il sait, au lieu de cacher ce qu'il ignore, aurait précisément valeur « théorique », entre guillemets, en tant qu'il pratique ce qu'il sait. Il serait l'effet d'un rapport conscient avec son inéliminable extériorité et non pas seulement le théâtre d'une élucidation. Rejoindrait-il ainsi la docte ignorance, entre guillemets, accusée d'être savante à son insu, justement parce qu'elle sait trop ce qu'elle ne dit ni ne peut dire ? Point d'interrogation, et là j'en finis avec la citation. Affaire d'homme, me direz-vous, et vous n'aurez pas tort. Mais comme ils sont loin d'avoir capitulé et de s'être rendus à la raison de leur insatiable volonté de posséder la raison et ses dépendances, cette conversation entre hommes est instructive sur les points d'achoppement et les nœuds de résistance que continuera de rencontrer cette forme de lutte féministe pas blanche. Parce qu'elle prend au sérieux l'imbrication entre de multiples formes d'existence que je ne rappellerai pas par commodité de langage genre, classe, race, n'est-ce pas, qui sont devenues une sorte de litanie que nous répétons à l'envi. Cette séquence de lutte encore en cours d'impulsion a tout à gagner à comprendre comment les grands hommes blancs se sont affrontés sur ce terrain des enjeux politiques de la culture. Or, il me semble que nous n'avons pas fini de comprendre ce qui se jouait à ce moment-là dans ce dialogue qui n'a pas eu lieu. Et entre tous les dialogues qui continuent de s'imposer et de parasiter, en quelque sorte, à la fois les analyses et les luttes qui pourraient en découler. Fût-elle qu'habile ou parfaitement insignifiante, cette culture sans qualité, mais ô combien qualifiante, pour qui sait la traduire et la tamiser, comme la lumière ou encore la farine, reste à investir en tant que terrain de lutte et de confrontation théorique et politique. Alors, à partir de là, je vais essayer, non pas de refaire ce que j'ai pu faire pour essayer justement d'investir ce terrain de confrontation théorique et politique, mais je vais m'intéresser à ce qui, aujourd'hui, dans le cadre des luttes, rétroagit et réfléchit ce qui est en train de ne pas advenir dans le champ universitaire. Pour cela, je vais m'intéresser à un certain nombre d'événements que je vais décrire dans une certaine mesure et sur lesquels j'essaierai de porter un regard, alors rétrospectif, c'est un bien grand mot puisque c'est en train de se faire, mais à tout le moins essayer de livrer quelques éléments de compréhension de ce qui est en train de se jouer. Donc si l'on admet effectivement, comme le dit, me semble-t-il très justement, de Certeau, parlant de la façon dont Bourdieu réduit au silence et à l'insignifiance de larges segments de ce qu'il va chercher à étudier ou à faire étudier, puisqu'au fond, la question, ce n'est pas tellement que Bourdieu lui-même, comme tout le monde dit maintenant, n'est-ce pas ? C'est une espèce de syndagme qui dit tout. On ne dit plus Bourdieu, on dit Bourdieu lui-même, n'est-ce pas ? Comme si c'était de l'ordre de l'idiosyncrasie et d'une sorte d'ontologie qui s'autosuffisait. Donc, dès lors que, effectivement, il ne s'agit pas simplement de s'intéresser à ce que le sociologue Bourdieu a pu dire, mais de considérer le vaste domaine et le vaste champ d'influence de l'ensemble de sa production et donc de sa reproduction, comme on ne peut pas faire l'économie ou qu'on ne peut pas définitivement prendre congé de cette approche-là, parce qu'elle a littéralement envahi tous les espaces de l'académie et de l'université en France, il importe de voir comment est-ce que, hors de ce champ-là, autre chose est en train de se jouer. Donc cette autre chose qui se joue pourrait effectivement être nommée, non pas non blanche, pour reprendre les termes qui sont de façon en quelque sorte approximative ou pour essayer de faire justice aux différentes tentatives qui aujourd'hui existent dans le champ militant pour réfléchir à la façon de se nommer soi-même dans le cadre de logiques d'oppression. J'aurais plutôt tendance à préférer le terme soit de couleur, soit pas blanc, c'est-à-dire qui prend congé définitivement de tout ce que la blanchité, la blanchitude, la blancheur et les pratiques de blanchiment nous imposent en quelque sorte et exigent que ça soit bien entendu. Donc prendre ses distances avec cela et considérer effectivement ce monde pas blanc, ça consiste précisément à admettre les façons éminemment polluées et impures dans lesquelles ces collectifs sont en train de se dire. Alors la pollution majeure qu'introduisent ces collectifs, et j'en citerai un certain nombre, consiste à nommer la race, non seulement la nommer, mais la faire advenir, y compris en l'incarnant à travers toute une série de pratiques corporelles, de pratiques d'apparition, de visibilité, de mise en visibilité et d'expression discursive, y compris avec des mégaphones, hein, autrement dit en essayant le plus possible de faire du bruit. Donc cette perspective-là, aujourd'hui, elle nous amène peu ou prou à prendre la mesure de l'espace resté complètement vide, vacant, dans le contexte universitaire sur ces questions-là, c'est-à-dire la rareté des enseignements qui portent sur la question de la race, leur caractère souvent soit optionnel, pour le dire dans les termes des maquettes, soit marginaux. Ces enseignements n'ont pas vocation à être diffusés avant quelques années aux étudiants et aux étudiantes, parce que ça risquerait de heurter les sensibilités, à tel point que lorsque certains textes... Alors j'ai fait l'expérience cette année, j'ai donné vraiment ce qui me semblait être le minimum dans le cadre d'une introduction à la réflexion sur la question des langues et des langues de l'autre. J'ai donné un extrait d'un texte de Frantz Fanon, qui est quasi introductif, hein, de Peau noire, masque blanc, et qui parle de la façon dont parler, c'est exister dans le regard de l'autre. Ce texte, en fait, a été distribué donc à des étudiants de licence, et je me suis aperçue en fait qu'il avait été pris par d'autres étudiants que ceux auxquels il était destiné, parce que visiblement, ça semblait être un peu étrange de trouver ça sur une table de secrétariat mise à disposition des étudiants. Alors non seulement ça a été pris par d'autres que ceux auxquels j'avais destiné, mais du coup ça a proliféré de façon complètement incontrôlée dans le cadre de cette formation de licence en sciences de l'éducation. Donc j'en tire une conclusion, c'est que nous sommes dans un état de frustration et de stérilisation en quelque sorte, y compris des bibliographies que nous fournissons aux étudiants, à tel point que certains textes, alors là je ne parle que de Frantz Fanon, je ne vous raconte pas la suite, n'est-ce pas, tout est à peu près sur le même mode, de la gestion en quelque sorte de la rareté. Nous sommes donc dans un régime de rareté du point de vue de l'ensemble de ces connaissances et de leur diffusion. Donc contre quoi les étudiants doivent être protégés, les étudiantes particulièrement, c'est la question de, en quelque sorte, s'affronter à la race et, pour les dire dans les termes qui pourraient être celles et ceux des étudiants d'ailleurs, ce serait de s'affronter à sa propre race et de savoir en quoi est-ce qu'elle est aujourd'hui articulée à toute une série d'oppressions. Donc, pour illustrer mon propos, je vais citer deux exemples de ce type de démarche qui, en quelque sorte, n'opère pas la jonction avec le monde universitaire pour les raisons que je viens d'expliquer. Le premier exemple concerne une marche qui a été initiée il y a un peu plus d'un an maintenant et qui s'est déroulée en octobre 2015, le 31 octobre, et qui s'appelait la marche des femmes pour la dignité et contre le racisme. En fait, cette marche avait pour instigatrice uniquement des femmes qui, justement, pourraient se dire pas blanches ou qui se disent racisées. C'est-à-dire qu'elles ont d'emblée constitué le périmètre des luttes en considérant que, non pas qu'il fallait exclure les femmes blanches, ça peut être perçu comme ça, mais qu'il fallait surtout rassembler les femmes pas blanche. Il fallait absolument s'assurer que toutes celles qui aujourd'hui considèrent qu'elles ont quelque chose à dire sur des luttes qui seraient décoloniales, hein, donc qui seraient des luttes hors du périmètre viabilisé à la fois de la pensée orthodoxe et aussi des luttes orthodoxes, devaient pouvoir se réunir pour concevoir des formes de lutte et d'affirmation visibles dans l'espace public de leur lutte qui ne dépendent pas ni d'un répertoire, ni d'une vulgate ou d'une orthodoxie qui serait celle de la gauche féministe. Donc cette marche a été essentiellement mal vécue par la gauche blanche hégémonique et, pour tout dire, élitiste, hein, qui continue à agir sur un mode qui est celui de la stérilisation des luttes, notamment antiracistes. Mais elle a aussi été un facteur de perturbation dans une longue généalogie qui remonte jusqu'aux années 70 et qui est celle qui renvoie au malaise des féministes à la fois historiques et radicales. Je ne parle même pas des féministes libérales ou des féministes d'État, les féministes républicaines, les féministes universalistes abstraites. Celles-là sont effectivement particulièrement heurtée par ce genre de choses, mais la discussion n'est pas à engager avec elle d'une certaine manière. Mais les féministes radicales, qui sont celles qui ont porté en quelque sorte le mouvement féministe jusque dans ses traductions réformatrices, se sont inquiétées en quelque sorte de la division des luttes au sein des mouvements féministes, dans la mesure où parler de féminisme décolonial ou parler de féminisme de femmes racisées, ce serait introduire des formes de division qui seraient irréductibles. On pourra en discuter, mais il me semble que c'est aujourd'hui que la question se pose de savoir si nous nous inscrivons dans une sorte d'unilinéarisme ou d'évolutionnisme unilinéaire au regard de ce que Beverly Skeggs vient de présenter, comme si, en fait, il nous faudrait encore deux ou trois générations pour rattraper le retard dans lequel nous nous trouvons, ou si il s'agit de construire une propre trajectoire qui soit viable dans le contexte de ce qu'est la France universelle. Alors, l'autre exemple que je citerai rapidement avant de conclure, c'est celui d'étudiantes au sein de l'Université Paris 8, qui, à la faveur de la mobilisation contre la loi travail, que certains et certaines d'entre vous ont peut-être suivi, ont décidé de se constituer en groupe non mixte, à raison du fait que étudiants et étudiantes considéraient qu'ils étaient racisés dans les assemblées générales et qu'ils étaient invisibilisés dans les prises de parole qui devaient constituer le cœur de la mobilisation. Alors, alors je vous renvoie à des textes qui circulent actuellement, hein, qui nous permettent de comprendre de quoi ils retournent sur ces questions-là. Et ce que ça révèle, c'est que les personnes qui se sont mobilisées l'ont fait au sein de l'université. C'est-à-dire qu'à la fois, elles ont été alimentées du point de vue théorique pour penser ces questions-là, mais elles se sont surtout appuyées sur leur expérience sociale, individuelle et collective, pour considérer qu'en fait, elles n'étaient pas en capacité de faire valoir l'ensemble des conditions et des situations d'oppression qui méritaient d'être incluses dans la lutte en cours. Et c'est donc cette sorte de malaise profond, voire de caractère scandaleux de cette, non seulement de ce groupe, mais de ce qu'il a suscité dans la discussion publique, qui aujourd'hui permet de prendre la mesure de tout ce qui reste encore à faire du point de vue de la rencontre possible entre des luttes féministes, des luttes qui parleraient marxien ou marxiste, peu importe, et qui parviendraient enfin à comprendre que la race n'est pas une sorte de domaine annexe au sein de la lutte entre différents groupes oppresseurs et opprimés, mais bien le soubassement fondamental de leur mise en œuvre. Alors, je finirai par un bref extrait qui vient du texte que Isabelle Claire a évoqué tout à l'heure, qui a été publié plus tôt cette année, et que j'avais écrit en 2012, en fait, dans le cadre de la première impulsion de ce projet. Il permet aussi peut-être de prendre la mesure de la façon dont j'ai une place, parmi d'autres, dans cet effort de lutte qui est en cours. L'art de la coalition a à voir avec additionner et soustraire, multiplier et diviser, gagner et perdre, revendiquer et renoncer, et finalement s'exposer à la dispersion et la division. En cours, nous pouvons être amenés à perdre notre base commune, notre sens de la gravité, tout comme nous pouvons nous cramponner à un autre centre de gravité, à un sentiment de se retrouver, et donc d'inventer de nouvelles façons d'appartenir et de devenir. Nous pouvons être amenés à un moment donné à devoir confier notre souveraineté à quelqu'un d'autre, à la déléguer à quiconque est autorisé, habilité et reconnu pour avoir une meilleure façon de comprendre, de formuler et d'exprimer cette cause qui nous rassemble. Dans ce cas de figure réside le danger de disparition et de dissolution, et plus précisément le risque de futures voix hégémoniques parlent à notre place, et donc le risque d'être mal comprise et réduite à l'impuissance. Toute tentative de coalition recèle en son sein son propre échec, car elle mêle de façon intrinsèque des potentialités et des impossibilités, des frontières et leurs violations. À l'abri d'une politique de la dépossession et du détournement qui traduit une politique intentionnelle de la division et de la dispersion, se détache une invitation à ouvrir et à explorer une autre voie qui ne demande qu'à être reconnue. Cette voie met en lumière des sujets, des actions et des incorporations subalternatives qui, par des modes et moyens variés, nous mènent vers des places publiques géographiques, physiques et virtuelles. Pas tout à fait subalternes, car elles reposent sur une puissance d'agir potentielle qui s'étend au-delà des barrières de couleur. Pas encore alternatives, car ce sens de la place et de l'espace lui fait défaut et reste à construire. Une coalition subalternative se dessine et semble s'assigner des tâches inhabituelles. Il s'agit alors de reformuler les questions et les problèmes afin de perturber les critères qui définissent les suspects habituels, de dépasser les limites de la croisade vertueuse, d'enfreindre les frontières ennemies et de s'emparer d'une autre dialectique de la démocratisation et de l'émancipation. Tout ce projet est ancré dans la perspective d'en finir avec la guerre. Je vous remercie.